18-19, le magazine.
Bonsoir, c'est Ondes Noires, une émission sur l'actualité du polar, présentée par Corinne et Jacques.
Bonsoir, et bien ce soir nous avons très envie de vous parler d'un livre qui nous a beaucoup plu, à Jacques et à moi-même, qui s'appelle Nu. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Bernard Pouy, son auteur. Bonsoir Jean-Bernard.
Salut.
Et merci d'abord de nous rejoindre.
Ah non, mais c'est un plaisir.
Tant mieux. On va commencer par une petite présentation. Donc, votre premier livre, 1983
Je ne sais plus. Arrêtez de dire ça, parce que
tout d'un coup... Au XXe siècle, tout du moins.
Voilà, au XXe siècle.
Au XXe siècle, un titre magnifique, Spinoza en cul égal.
Voilà.
C'est le dernier de la collection Sanguine. Il me semble bien.
Oui, ça va être le dernier ou l'avant-dernier. Enfin, c'était prévu pour le dernier parce que c'était pas prévu comme ça. C'était un livre de Patrick Reynal et Mosconi qui Patrick Mosconi qui dirigeait la collection. À l'époque, a su à ce moment-là qu'il allait être viré, donc il a mis mon texte en plus de celui de Reynal. Voilà.
Ah d'accord. Non mais disons que j'avais dû vouloir faire de la psychanalyse de comptoir en me disant comme c'était son premier dernier d'une collection, depuis il essaye d'inaugurer toute nouvelle collection française.
Mais non, mais moi j'ai jamais voulu écrire. Alors ça c'était un truc, c'était une pochade. C'est parti comme ça. Quand j'ai vu un peu l'effet que ça faisait, bah je me suis dit autant continuer et puis continuer à m'amuser surtout. Hein.
Voilà, alors quand même, vous continuez à vous amuser, mais vous devez être quand même drôlement malheureux, parce que depuis, il y en a quand même 35 qui ont suivi à peu près. De romans, rien que des romans.
50.
50 ?
Oui.
Oh, bah, 50, on m'a pas tout dit.
Unitaire, c'est-à-dire avec mon nom tout seul, mais ils en ont d'autres avec d'autres noms. et notamment avec Reynal, d'ailleurs.
Et notamment avec Reynal, ouais, oui, on se souvient d'un J.B. Nacré, mais pas qu'avec Reynal. Bon, plein de nouvelles, des dizaines, des centaines, certainement, de nouvelles.
Oui.
Et puis plein d'inventions, vous êtes le papa du poulpe. Papa du
oui.
poulpe. Moi, j'aime bien le papa du poulpe.
Oui, oui, moi, j'aime bien aussi, mais ça m'a quand même extrêmement fatigué.
Et du coup, comme ça vous a extrêmement fatigué, vous êtes directement passé à la série grise.
La série
ça
grise.
Ça doit être ça, ça doit être les cheveux blancs.
Pierre de Gondol, Tourisme et Polar, Suite Noire, enfin bref, j'arrête pas. Parce que si on s'arrête, on meurt, hein. Il faut bien
alors continuez.
Oui, oui.
Dernière chose pour vous présenter un petit peu, vous êtes vraiment, je crois, un des plus ardents défenseurs de la littérature populaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette littérature populaire, et souvent mal, et moi j'aime bien ce que vous en dites, donc j'aimerais bien... votre idée de la littérature populaire.
Oui, la littérature populaire, c'est pas du tout la littérature pour le peuple,
voilà.
Contrairement à ce que tout le monde peut penser, puisque il y a des notre dieu tutélaire, c'est Balzac. Je veux dire, même à la fin du XIXe siècle, le même problème se posait avec une espèce de dichotomie entre Balzac et Flaubert, c'est-à-dire que entre quelqu'un qui faisait passer les codes après et en arrière comme Balzac et quelqu'un qui faisait passer les codes en avant comme Flaubert. C'est uniquement ça. La littérature populaire, c'est une littérature qui est faite pour être lue par le plus grand nombre de gens possible, quoi que soit leur culture, leur référence, leur positionnement face au monde, tout ça. Alors que la littérature non populaire, l'autre, et c'est pas péjoratif, hein, je m'entends bien, dire ce qu'on appelle nous la littérature blanche, c'est une littérature qui demande une connivence du lecteur, soit une connivence intellectuelle, soit une connivence culturelle, soit une connivence morale, soit une connivence idéologique, enfin bon, où il y a des critères, des codes, ainsi de suite, qui sont mis, qui sont théoriquement, de la part de l'auteur, déjà intuits et compris par le lecteur, voilà.
Alors,
c'est ça la différence.
On va arriver donc à un exemple de cette littérature, c'est-à-dire votre dernier livre, Nu, qui est paru le mois dernier, octobre, chez Fayard Noir.
Oui.
Donc Nu, N-U-S.
Il y a 15 jours, hein, à peine.
Il y a 15 jours. Vous y mettez en scène un collectif qui s'appelle Zo, 4 hommes, 3 femmes. Encore une fois, on va se battre parce que c'est toujours pareil, les femmes sont en sous-effectif.
Mais comme ils sont 7, c'est difficile de faire 3,5. Hein.
Eh oui, mais pour, c'est bien pour les votes, au moins il n'y a pas de problème d'égalité. Si tu
veux.
Et donc en fait, évidemment, une contrainte bizarre. Ils font, c'est un collectif. Ah, au fait, collectif, alors libertaire, altermondialiste, anarchiste, comment les définiriez-vous?
C'est difficile de dire. Moi, je, de par mes passions et mes engagements, je dirais anarchiste. Mais anarchiste, ça fait toujours peur aux gens. On voit toujours quelqu'un hirsute, crypto-russe avec un couteau entre les dents et une bombe dans la main. Donc, je préfère le mot libertaire, peut-être, qui fait moins peur et où il y a liberté dans libertaire. Donc, ça calme un peu. Mais oui, non, c'est moi ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on entend toujours parler pendant l'été, quand on est tranquille en vacances, des universités d'été. Qu'est-ce que c'est que ces putains d'universités d'été? C'est des gens de partis politiques qui se réunissent généralement au soleil, avec du rosé frais dans le seau et des bons repas pour discuter un peu de ce qu'ils vont faire dans l'année, sans savoir du tout à l'avance ce qui va leur tomber dessus dans l'année. Donc là, moi, je me disais, il n'y a aucune raison qu'un groupe anarchiste, libertaire, altermondialiste, comme vous voulez, ne fasse pas également université d'été en essayant de savoir ce qui va se passer dans l'année qui arrive, comment organiser les actions et le fonctionnement du groupe. Alors, la seule différence entre ces gens-là et les autres, c'est que eux, ils sont totalement responsables. C'est-à-dire, le principe des groupes libertaires, c'est qu'ils sont révocables à tout moment s'ils font pas le boulot. Alors bon, et puis ils ont décidé de faire ça dans un camp de nudistes parce que comme ça, ça met à plat, si j'ose dire, toutes les différences. Il y a rien à cacher.
Ça c'est vrai. En fait, c'est en gros à poil. On peut absolument pas tricher.
Voilà, on triche pas. On se découvre. On fait attention. Les mots sont plus les mêmes. On s'adresse pas un garçon s'adresse pas à une fille de la même façon et une fille s'adresse pas à un garçon de la même façon non plus. Donc y a peut-être des petites choses qui changent, c'est pas forcément important, mais ça peut être déterminant dans des réunions de travail. Essayez d'imaginer en ce moment avec tout ce qui se passe, les réunions, les négociations, ainsi de suite, que tout le monde, que la CGT, la CFDT et le ministère du Travail soient à poil dans une salle. Ça serait quand même un peu différent.
Je pense aussi effectivement que ce serait très différent. Alors, ces personnages, vous les aimez bien, mais vous les mettez quand même souvent en contradiction un peu avec leurs idées, c'est un début quand même de toute la narration. Par exemple, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, ils semblent quand même des disciples de Paul Lafargue. Ils se mettent dans un camp de nudistes, mais ils doivent quand même être très studieux et très organisés pour faire avancer leurs idéaux. Donc, ils sont toujours un petit peu en porte-à-faux. Et puis, ça va aller de mal en pis, si je puis dire.
Oui, mais la paresse, selon Paul Lafargue, c'est pas la glandouille, hein, comme disait l'autre ministre, je sais plus qui avait parlé de ça. Non, la paresse, c'est en fait une espèce de refus du travail normé et du travail considéré comme une première étape de l'esclavage. C'est du constat. Non, là, ils sont là pour travailler, mais simplement, c'est eux qui décident de la teneur de leur propre travail, c'est-à-dire de la teneur de ce qu'ils vont donner là en plus gratuitement pour les besoins de la cause. Donc c'est de l'ordre du don ou du potlatch, c'est pas du tout de l'ordre de la valeur ni de la force du travail, quoi.
D'accord. Et autre contradiction qui arrive tout de suite, Callot, qui en quelque sorte, on va dire, le modérateur de cette séance, de cette université d'été, puisqu'évidemment il n'y a pas de chef, il accepte d'aider le chef du camp, le patron du camp de nudistes, Harar, jolie référence. Il lui demande à Harar de fouiner pour élucider le meurtre de Rosa, qui est une vieille dame assassinée. Donc en quelque sorte, Callot, cet anarchiste libertaire, tout d'un coup, il prend quand même un peu un rôle de flic.
Voilà.
Et ça le gêne aux entournures, et s'il avait des vêtements, ce serait un peu étriqué, mais il en a pas.
Voilà, donc c'est un peu le sujet du, voilà, du roman, c'est-à-dire que par grossièrement par amitié, il accepte de d'être un peu le contraire de ce qu'il prône. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est toujours quelque chose qu'on oppose aux anarchistes libertaires, en leur disant vous avez à punir, si vous avez à mettre en ordre une coercition, si vous avez qu'est-ce que vous faites ? Selon vos théories, qu'est-ce que vous faites ? Et c'est vrai que c'est toujours un sujet sur lequel les anarchistes peinent à s'expliquer, étant donné qu'ils sont en général, hein, je dis bien en général, plutôt favorables à ce qu'on appelle le remboursement par le travail. Mais le remboursement par le travail, c'est très vite les travaux forcés. Et les travaux forcés, c'est ce qui a quand même, c'est ce qui a été employé par les sociétés les pires esclavagistes ou colonialistes dans les grandes époques que l'on tente d'oublier. Donc tout ça se mêle un peu. Et là, je voulais mettre les gens, mes personnages, face à cette contradiction, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à gérer un problème de punition et de coercition, parce que c'est les seuls à savoir que ils vont pas, comme ils ont pas du tout l'intention de mettre les autorités, la police, la gendarmerie, sur le coup, ils vont essayer de régler ça eux-mêmes. Alors, comment ils vont gérer cette contradiction-là et comment ils vont se débrouiller? Et c'est pas forcément simple, ils n'y arrivent pas forcément, quoi.
Et heureusement, c'est pas non plus, la solution sera pas manichéenne, on ira vers les grisés, puisqu'ils essayent justement de ne pas remplacer ni la marée-chaussée, ni l'institution de la justice, et de pas faire non plus justice eux-mêmes.
Alors, voilà, cette vieille dame. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours quelqu'un qui va morfler, quoi.
Forcément, il y aura quelqu'un qui va morfler. Alors, la première qui a morflé, c'est Rosa. Et on parle de quelle serait la fille de. Alors, je vais mal prononcer, Buenaventura Durruti.
De Durruti, oui.
Un anarchiste espagnol qui a été assassiné en 1936.
Voilà, Durruti est une vache sacrée, un peu, des anarchistes et des. Et surtout les anarchistes espagnols.
Merci pour la noire de la vache sacrée, c'est sympa.
Voilà,
merci,
c'est ça. et donc, c'est toujours marrant de. Là, c'est cette bande de types qui s'en foutent un peu. Bon, il y a une histoire qui leur arrive, qui est concomitante, mais qui les intéresse pas. Tout d'un coup, ils se sentent un peu intéressés et puis.
Presque investis dedans.
Et voilà, investis uniquement à cause de cette connerie qui aurait. Une fille de Durruti, en fait, on ne connaît pas trop de filles de Durruti. Tout d'un coup, ils ont une mission qui est autre que celle de trouver quelqu'un qui aurait tapé sur une vieille dame sans trop faire esprit, comme ça, un peu en loose-dé. Mais voilà, c'est ça. Tout d'un coup, on n'échappe pas à son destin, à sa famille, et surtout, on n'échappe pas à ses mythes. Et c'est vrai que pour beaucoup d'anarchistes, il y a des mythes aussi récurrents et aussi forts que dans d'autres congrégations.
Le collectif s'appelle Zo. Apparemment, je suppose que c'est un hommage à Zo d'Alba.
À Zo d'Axa.
D'Axa, pardon, qui était donc un anarchiste du 19e siècle.
Voilà. Qu'il faut relire, qui est un peu tombé dans l'oubli, mais qui est d'abord une très belle plume, et puis qui est quelqu'un. C'est le 19e siècle, hein, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose d'un peu superfétatoire, mais c'est très intéressant, c'est de très beaux textes qu'il a.
Alors, très beaux textes, et pour le plaisir, une petite citation que j'aime particulièrement. Vivre pour l'heure présente, hors le mirage des sociétés futures. Vivre et palper cette existence dans le plaisir hautain de la bataille sociale, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est une manière d'être et tout de suite.
Voilà.
Ça, je trouve que ça va bien avec aussi tout le travail de ce collectif.
Oui, c'est ça, oui. Alors, en plus, moi, ce qui m'intéressait, c'est de, dans un roman noir, c'est essayer, c'est pour ça que le roman est totalement écrit au présent, parce que je voulais dire un peu avec cet artifice que, c'est des trucs qui se passent maintenant. C'est-à-dire que effectivement, on peut parler de l'anarchie, des libertaires, de la punition, de tout ça. Mais en même temps, est-ce qu'on peut pas se grouper simplement pour non pas vendre des tomates, mais les échanger, tu vois? C'est-à-dire toute cette espèce d'organisation basique qu'on voit apparaître avec les altermondialistes, et à l'intérieur des altermondialistes, des groupes beaucoup plus radicaux comme les trailers ou autres, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est de mettre un peu de présent dans tout ça, quoi.
Oui, c'était un petit peu d'ailleurs la question suivante, c'est-à-dire en fait qu'il y a quand même une mise face à face de justement ces grandes figures du Ruti, d'Axa, et puis ce que peut être un groupe d'anarchistes aujourd'hui. Avec une problématique et en particulier tous ces médias qui nous font connaître tout ce qui se passe partout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant actuellement?
Voilà, c'est-à-dire que, mais ça c'est quelque chose qui est toujours qui fait toujours partie de la théorie libertaire, c'est que rien n'est décidé mondialement, tout est décidé à la base. C'est-à-dire que si les groupes s'organisent petit à petit, avec des pratiques libertaires basiques basées sur le troc, l'échange, l'égalité, tout ça, on commence à changer. On commence un peu à changer les choses autour. Et petit à petit, ça gagne. Alors, effectivement, des gens au 19e siècle ont essayé de théoriser ça d'une manière organisationnelle pour une société, mais ça n'a jamais bien marché parce qu'il faut partir de la base. C'est-à-dire que c'est la base fédérative, c'est la cohésion et la collusion de groupes qui peut-être sont différents, mais qui ont des choses, un, à échanger, deux, à donner, et ils ont à céder ce que je raconte dans le bouquin, parce que c'est quand même des groupes, ce que je raconte dans le bouquin est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui déjà fonctionnent comme ça, et qui essaient de se sortir de la mainmise de l'État, et de l'État-providence, et de... avec l'aide, c'est pas du tout la décroissance forcément, ni le retour aux sources, mais avec l'aide de gens qui sont totalement dans le système. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un groupe comme ça doit avoir un dentiste sous la main, sinon, oui. Sinon il doit avoir mal. Bon. Mais ce dentiste sous la main, lui, il sera livré en tomates, plomberie et compagnie à vie.
Ouais, les mécaniciens aussi, ça aide bien apparemment.
Ça les voilà,
aide
c'est bien. Ça.
Même si des fois, on peut se passer de voiture, ça aide
voilà,
bien quand
donc
même.
Il faut organiser à plusieurs les choses, et puis une espèce de vie un peu parallèle, penser à une manière de vivre autrement, et de ne pas dépendre uniquement la valeur de votre force de travail, parce que si on n'a pas de travail, on n'a plus de valeur. Quoi.
Alors justement, de ce que vous venez de dire là... penser à vivre différent. Est-ce que vous pensez à écrire différent? Parce qu'on vient de parler de sujets très très sérieux, et je voudrais pas que nos auditeurs pensent que c'est un livre austère avec des tas de théories politiques, parce que c'est un livre où on éclate de rire régulièrement. Donc qu'est-ce qui...
Oui, non, parce que je m'amuse, hein.
Voilà.
C'est-à-dire que moi, la littérature, c'est d'abord un plaisir, et quand j'écris, je pense systématiquement à mon lecteur, c'est-à-dire que ce lecteur n'existe pas, mais il est en gros comme ça, mais je me dis comment je vais l'avoir, comment je vais le faire rigoler, comment je vais le faire avancer, comment je vais le faire reculer, tout ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de physique.
Une manipulation.
C'est une douce manipulation, mais c'est une manipulation qui fait autant plaisir que ça fera plaisir au lecteur, j'espère. Bon.
Tout à fait.
Et puis, ce qui me fait marrer aussi, c'est que c'est moi, je suis un militant libertaire, bien sûr, mais ce qui fait marrer, c'est de dépeindre des militants libertaires qui sont un peu emmerdés d'être à poil toute la journée et d'avoir réglé des trucs assez importants, idéologiquement importants, alors qu'ils ont les couilles sur la table, quoi. Donc, c'est ça aussi. Donc ça, c'était obligatoire.
Pour les jeunes femmes, beaucoup moins, mais bon, on en reparlera.
Oui, mais pour les jeunes femmes, c'est autre chose, mais je peux pas parler à la place des femmes.
Non,
donc, mais c'est pareil. Donc, c'est ça qui me fait... C'est pour ça que le ton du roman devait être aussi un peu décalé et amusant de temps en temps, parce que c'est vrai que ça peut être amusant. Je suis également un ancien naturiste de famille. Hein. Moi, je suis pas un naturiste...
pas un converti, un pur et dur.
Non, oui, moi, mes parents étaient naturistes, et puis, bon, on est dans des camps naturistes avec des vieux pharmaciens. Bon, enfin bref. Donc, je connais le truc un peu à la base, et c'est vrai que ça m'a posé des problèmes, mais ça en a réglé beaucoup aussi. Donc, tout est à regarder de près, et tout est à vivre. C'est-à-dire, il faut... Alors, ce qui est bien, c'est vivre ça en groupe, parce que surtout un groupe où la parole est libre, eh ben, on peut dire les choses, on peut rétorquer à l'autre, ratata, ratata, quoi.
Alors, c'est plein de références. Enfin, moi, j'ai éclaté de rire, je citais ça, parce que ça m'a fait vraiment hurler de rire. C'est le groupe de lesbiennes qui s'appelle En attendant Goudou.
Oui, ils existent.
Ils existent.
Ouais, je les ai connus, c'était à Sancier... dans les années 80, en attendant Goudou, s'il te plaît.
Ah oui, je pensais que c'était une invention de vos neurones.
Non, mais c'est tout le monde, personne s'en souvient. Moi, je suis celui qui repère ça et qui l'oublie pas, quoi. Bon, bien évidemment.
Voilà, le temps passe, on va être obligé de se quitter en recommandant donc vraiment ce livre qui nous a plu pour plein de raisons, quelques-unes dont on a pu parler ce soir, mais il y en a encore plein d'autres. Et puis aussi, l'écriture qui est toujours aussi agréable, aussi fluide et aussi, je dirais, comment dire, élégante.
Eh ben,
merci beaucoup, Jean-Bernard.
Hein, oui.
Et puis à très bientôt.
Mais à très, très, très bientôt.
Très bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.
18h30 sur Agora FM. Bon...